Qui nous rejoignent maintenant dans le cadre de cette journée Mangatan en partenariat avec la Semi-Temps dans le cadre des Utopiales. Donc on va se voir pendant une heure avec Florent et Julien que je présenterai dans une minute pour une conférence aux origines de la création artistique asiatique. Ensuite on aura une petite surprise, puis le concours de cosplay et enfin une projection de Voyage vers Agartha en salle 800, le dernier film de Makoto Shinkai. Voilà, donc déjà bonjour, bienvenue. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julien Pirou.
Bonjour.
Et Florent Gorge.
Bonjour.
Donc Julien est creative designer chez Ubi. Il est également journaliste. Il a travaillé sur un certain nombre de magazines, dont le IG Magazine, édité par Ankama. Et Florent, lui, est historien du jeu vidéo, également traducteur et interprète. Il a notamment réalisé les livres L'histoire de Nintendo ou No Life Story. Et il anime depuis la rentrée une nouvelle émission sur No Life, Les oubliés de la Playhistoire. Donc on va essayer de parler un petit peu de la manière dont la création artistique japonaise s'est construite et finalement, qu'est-ce que c'est, où se situe pour vous le tout début, où on peut dire que le manga et puis plus généralement cette dimension de l'image a pris tout son sens, toute son importance.
Je pense que je vais laisser Florent commencer là-dessus, c'est un peu ton domaine.
Oui. Disons que pour parler du manga, on doit remonter peut-être à peu près au 8e siècle, hein, avec les premiers rouleaux, ce qu'on appelle les emakimono, qui sont déjà une tentative de raconter des histoires par le biais de dessins et d'illustrations. Il n'y a pas forcément du texte, et puis il n'y a pas d'organisation moderne type bande dessinée telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais il y a cette volonté de raconter des histoires pour n'importe qui, même ceux qui ne savent pas lire, voilà, par le biais de ces rouleaux. Après, vu que le sujet de la conférence, on parle aussi pas mal de l'influence, de l'originalité, on va dire japonaise, en termes artistiques, dans le manga ou dans le dessin animé, etc. À partir de quel moment on peut parler de spécificité japonaise? On peut peut-être parler des influences du Japon aussi, peut-être sur l'Occident. Parce que les impressionnistes ont d'abord énormément été influencés par l'art japonais, que ce soit Monet ou Van Gogh. Ils ont tous été extrêmement impressionnés par les ukiyo-e et puis voilà les estampes japonaises. Il y a d'ailleurs une très belle exposition à Paris sur le sujet entre Hiroshige et puis Van Gogh. Et donc voilà, on doit quand même se poser la question, est-ce que vraiment les Japonais se sont uniquement focalisés sur l'influence occidentale pour ce qui est du dessin animé, du jeu vidéo ou ce genre de choses? Pas forcément, non. Il y a aussi des influences réciproques et qui se retrouvent en fait tout au long de l'histoire, et c'est pas uniquement unilatéral.
Donc là on a justement les peintures dont tu parlais de Hiroshige et l'interprétation de Van Gogh en fait de ce même tableau.
Tout à fait.
Et tu parlais justement de la manière dont les classiques, finalement occidentaux également, sont réappropriés par les Japonais, enfin dont les Japonais sont réappropriés. Tu disais que c'est cette société japonaise a baigné finalement, et baigne dans une ouverture générale.
On a toujours tendance à croire, on a cette image un petit peu stéréotypée, et qu'il est peut-être pas forcément tant que ça, mais en fait d'un Japon copieur. Voilà, dans les années 70-80, les délégations japonaises qui affluaient en Europe, aux États-Unis, pour prendre des photos dans les sociétés, dans les usines, dans les entreprises, d'un point de vue touristique aussi, bien entendu. Toute cette image-là, elle est pas née n'importe quoi. C'était la réalité. Dans les années 60-70, les Japonais venaient vraiment en Occident voir ce qui se faisait chez nous en termes industriels et etc. Ça a beaucoup déplu. Le Japon a une très mauvaise image qui lui a collé à la peau pendant des années et des années. Mais ça date pas uniquement de cette période-là. Il faut aussi se rendre compte que à la fin de l'ère Meiji, voilà, au 19e siècle, les Japonais, non, au début de l'ère Meiji, pardon, ont laissé les Américains entrer au Japon. Ils ont ouvert leurs frontières après plus de deux siècles d'autarcie totale, pratiquement totale. Et ils se sont, plutôt que de se refermer sur eux-mêmes en disant non, on veut absolument pas être colonialisé par les blancs occidentaux, etc. Et c'est ce qu'a fait finalement l'Indochine, c'est ce qu'a fait la Chine, c'est ce qu'a fait l'Inde, et on a vu les conséquences après sur les relations entre tous ces pays. Le Japon est le seul à s'être dit bon ben finalement les occidentaux arrivent, ben on va les accueillir, on va apprendre d'eux, on va regarder ce qu'ils font, on va s'imprégner de leur culture, de leur technique, et puis ben on va l'utiliser, mais pour nous renforcer. Ça sert à rien de lutter contre des gens qui de toute façon sont par rapport à nous militairement, économiquement, technologiquement parlant, plus fort que nous. Et en fait, cette capacité de s'approprier ce que fait l'autre est une particularité culturelle japonaise. Et ils ont gardé, en fait, tout au long de leur histoire, en tout cas à partir de l'ère Meiji, jusqu'à aujourd'hui, cette capacité à utiliser, à reprendre. Et c'est, pour eux, c'est pas forcément quelque chose de mal. Au contraire, c'est une force. Voilà.
En plus, il faut bien se rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, qui est le moment où vraiment la création manga animée au Japon a vraiment pris son essor, il y avait une forte présence américaine au Japon, forcément, et donc les Japonais ont été aussi envahis, c'est un terme un peu malheureux, mais par ces influences américaines, tout ce qui était cinéma américain, le western, la bande dessinée avec les super-héros, les dessins animés de Disney, et c'est des choses... Non, c'est pas tant qu'ils ont copié ça que de toute façon on les abreuvait de ça, enfin en tout cas les Américains les abreuvaient de leur culture, donc forcément il y a eu une influence qui a été faite qu'ils le veuillent ou non, j'ai envie de dire.
Et justement au niveau artistique, est-ce qu'il y a pour vous des auteurs qui sont particulièrement emblématiques de ces influences réciproques?
Moi, un des auteurs japonais qui est un de mes auteurs de prédilection et qu'on va dire que je connais le mieux, qui est Leiji Matsumoto, donc qu'on connaît tous en France, probablement plus pour Albator, mais en fait c'est un artiste qui a eu une carrière de dessinateur extrêmement intéressante, puisque quand il fait ses débuts, il a 15 ans quand il dessine son premier manga. Il gagne un concours dans un journal, et en fait il est repéré par Osamu Tezuka, donc qui est le créateur de Astro Boy et qu'on considère comme le père du manga, qui va en fait en faire son assistant. Donc Matsumoto a une première phase où il dessine vraiment comme Tezuka, il est vraiment imprégné du style Tezuka, et en fait petit à petit il évolue. À un moment donné de sa carrière, il dessine vraiment des mangas shoujo, donc des mangas pour filles. Et en fait, à un moment donné, donc Matsumoto habite dans une île qui s'appelle Kyushu. Je suis pas un expert en géographie du Japon, donc peut-être que.
Oui, c'est au sud de l'île Honshu.
Voilà. Et en fait, à un moment donné, il monte à Tokyo pour lancer sa carrière, devenir vraiment faire de son métier du dessin. Et en fait, il a pas d'argent, il est fauché, il habite dans une chambre minable. Qui est une chambre de 5 tatamis et demi, ce qui est, je pense...
Ça fait 11 mètres carrés.
Voilà, c'est l'équivalent de la chambre de bonne, un petit peu, de ce qu'on peut imaginer. Et en fait, il utilise ses derniers yens pour aller voir un film au cinéma, et qui va se révéler... Alors, il ne sait pas du tout ce qu'est ce film, hein, c'est juste qu'il a envie de se vider la tête et de regarder un truc. Et ce film, en fait, c'est un film français. C'est un film qui s'appelle Marianne de ma jeunesse, film de Julien Duvivier, dont on connaît plus peut-être aujourd'hui pour Don Camillo, mais qui a fait aussi de très très grands films, dont celui-là. Et en fait, Matsumoto, ça va lui retourner la tête. Enfin, c'est un film, c'est en français sous-titré en japonais, voilà. Et pour vous situer un petit peu, Marianne de ma jeunesse, c'est un peu dans la lignée des films de Cocteau. C'est très poétique, très mystérieux. Et il y a ce jeune homme qui va découvrir une femme blonde mystérieuse dans un château, et il va y avoir une relation très ambiguë entre eux. Et Matsumoto, il va complètement flasher sur ce film et sur ce personnage. Et notamment, il va commencer à développer une obsession pour les femmes blondes mystérieuses qu'on retrouve dans absolument toute son œuvre qui va suivre. Et sur les thèmes, la narration, ce côté très européen, très, très, très romantique, en fait, c'est des choses qui vont vraiment imprégner son œuvre. Et en même temps, il va avoir des influences, lui aussi, parce que c'est l'époque, des influences américaines, le western notamment. Et tout ça va se mélanger pour finalement donner un style qui est vraiment unique dans la création japonaise. Et une autre influence qu'il va avoir, mais au niveau de son dessin cette fois-ci, c'est Barbarella, en fait. Donc la bande dessinée de Jean-Claude Forest. Alors, je ne sais pas exactement en quelles circonstances il découvre Barbarella, mais c'est une œuvre qui a été, dans les années 60, qui a vraiment franchi toutes les frontières, qui est sortie dans une quantité hallucinante de pays. Et en fait, il va découvrir ce style, le côté très sexy aussi de l'héroïne, des thèmes, des... Je pense que le jeune Matsumoto s'est aussi reconnu dans ces thématiques qui se décoinçaient un petit peu, c'est la bande dessinée qui se décoinçait. Et il va faire, ça va influencer son style, et notamment avec des personnages qui vont devenir beaucoup plus longilignes, beaucoup, enfin vraiment il va s'affranchir du style Tezuka qu'il caractérisait jusqu'à ce moment-là, jusqu'alors. Et donc voilà, en fait c'est toutes ces influences qui sont à la fois japonaises, européennes, américaines, du cinéma, de la bande dessinée, et ainsi de suite, de la musique aussi, qui vont le faire mûrir en tant qu'artiste et donner un style qui pourtant est totalement japonais. Donc ça, là, on voit par exemple un manga qu'il faisait à l'époque où il venait de découvrir Barbarella, et donc c'est assez clair et net l'influence de Forest sur son dessin, et on n'est pas encore au style qu'il aura plus tard sur Albator, là on est 10 ans avant Albator, mais les choses commencent à se préciser pour lui. Donc voilà, je ne sais pas quoi rajouter après cette longue tirade.
C'est quand même amusant, justement, ce rapport entre les figures, un certain nombre de figures occidentales et les créateurs japonais. Moi, je pense aussi, tout de suite, quand tu évoques ces éléments, à Bushi, Terazawa et Cobra avec...
Jean-Paul Belmondo.
Voilà.
Mais il y a la France et le Japon ont toujours eu des liens assez étranges, en fait, des liens... amicaux, en fait, d'un point de vue culturel. Le Japon a énormément été influencé par la culture française. Ils ont un respect énorme pour le patrimoine culturel français et vice versa. On l'a vu tout à l'heure avec les impressionnistes. On verra aussi, aujourd'hui, c'est la génération des lecteurs de manga sont complètement imprégnés depuis le Club Dorothée par cette culture un petit peu dessin animé avec des personnages aux grands yeux, enfin, toutes ces choses qu'on a vues un peu aujourd'hui comme des stéréotypes. Et on le voit sur la création actuelle française de la bande dessinée ou même du dessin animé. Ce qui passe aujourd'hui, même si ce sont des productions qui sont françaises, voire européennes, on voit clairement une influence japonaise, que ce soit les Totally Spies ou vous avez certainement d'autres exemples de dessins animés où c'est clairement inspiré de la culture du manga et du dessin animé. Donc, et puis, on peut voir aussi, puisqu'on parlait de Leiji Matsumoto, mais il y a aussi, tu avais d'ailleurs une anecdote assez amusante là-dessus, mais les Daft Punk, qui font partie de cette génération justement élevée au dessin animé comme Albator, eux ont été avec leur univers contactés Leiji Matsumoto pour une collaboration bilatérale. Donc Leiji Matsumoto qui est venu en fait à dessiner des choses comme Albator avec l'influence de la culture française se retrouve finalement un père et surtout une motivation artistique pour des acteurs français qui viendront, donc la boucle est bouclée, hein, c'est un petit peu ça l'anecdote.
D'ailleurs oui, Matsumoto racontait que quand les Daft Punk sont venus le voir, ils ont débarqué chez lui dans leur costume de robot. Donc on a sonné à sa porte, il a ouvert et c'était deux robots qui venaient pour lui demander de travailler avec eux. Donc apparemment il a eu un petit moment de « Waouh, ça y est, le futur débarque chez moi ». Mais donc voilà, ça devait être assez amusant je pense.
La boucle est bouclée, comme on dit, oui.
Est-ce que vous avez une idée du retour comment les Japonais perçoivent finalement cet impact, le fait que pour Matsumoto, des Français viennent frapper à sa porte pour lui demander de collaborer avec lui. Est-ce que c'est quelque chose dont ils ont conscience ou est-ce qu'ils produisent pour leur petit archipel et ensuite, comme on le voit parfois dans certaines interviews de réalisateurs qui disent « on a d'abord réalisé pour le Japon, on ne pensait pas que ça pourrait intéresser un public au-delà ».
Je pense qu'ils sont les premiers surpris, mais pour le coup, il faudrait peut-être demander aux jeunes mangaka qui sont en bas et qui font des démonstrations, qui sont venus de Niigata, de leur poser la question, qu'est-ce que vous pensez de cet engouement en fait des jeunes français et du français en général pour la culture japonaise. D'une manière générale, pour avoir été vivre suffisamment longtemps, sont les premiers étonnés. Ils ne pensaient pas que leur culture en fait pouvait à ce point plaire à un public occidental et a priori français, voilà, qui a sa propre culture très forte, très présente et dont on peut être fier aussi. Donc ils sont les premiers surpris. dans le monde du jeu vidéo, c'est vrai que je vais régulièrement voir des créateurs qui sont plus ou moins connus. Ils sont étonnés en fait que des Français s'intéressent et fassent des recherches aussi élaborées sur des sujets comme le manga et avec des sujets ou le jeu vidéo, mais avec des thèmes tellement pointus que même les Japonais vont pas forcément chercher dans ces voies-là. Donc la France, ça, c'est vrai, de ce côté-là, un amour pour le Japon qui est pas négligeable, et les Japonais en sont les premiers surpris, et ça se passe plutôt bien, quoi. Ils sont étonnés, mais ils sont heureux de voir cet engouement qu'on a.
D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, mais il y a quelques semaines, là, la France a décoré Leiji Matsumoto et lui a décerné l'ordre de chevalier des arts et lettres. Donc, ce qui est quand même une belle reconnaissance, je trouve, pour cet auteur qui a été beaucoup inspiré par le cinéma français notamment.
Miyamoto l'avait été aussi quelques années avant en tant que créateur de jeux vidéo, et c'est vrai que la France est un des premiers pays à avoir reconnu en fait tous ces artistes de ce qu'on appelait jusque-là la sous-culture, comme des artistes à part entière.
Leiji Matsumoto, qui viendra d'ailleurs au Festival d'Angoulême, dont il est un des invités d'honneur.
Il était à Annecy cette année, il sera à Angoulême l'année prochaine, ce qui est bien parce qu'il sortait pas beaucoup du Japon ces dernières années. Bon, il est plutôt jeune non plus, mais vraiment, on sent que lui a toujours eu une curiosité en fait, notamment dans les années 70, il a fait le tour du monde, il s'est promené un peu partout, en Afrique, ailleurs. Donc, c'est bien de l'avoir un petit peu en France également.
Et justement, donc là, on a Leiji Matsumoto. Tout à l'heure, j'ai un petit peu dévoilé, sans le vouloir, un des éléments, c'est-à-dire quand on discutait pour préparer cette table ronde, on a évoqué aussi tout ce parterre d'œuvres qui traduisaient chez les Japonais en fait un intérêt pour la culture occidentale au sens large. Est-ce que justement, je crois que c'était Florent qui avait une anecdote par rapport à ça et par rapport à la perception en fait de ces œuvres-là, où à une certaine époque le public ne se rendait pas compte que c'était des œuvres japonaises.
Ouais, effectivement, le Japon est un pays extrêmement curieux. Il s'interroge énormément sur son propre passé, mais aussi il va regarder ce qui se fait ailleurs. Et ils ont adapté pendant toutes les années 70 et 80 un très grand nombre d'œuvres occidentales, que ce soit les Trois Mousquetaires. Enfin, ça commence déjà avec Tezuka, hein, qui adapte à sa sauce en fait les grands classiques de la littérature européenne. Et on a vu débarquer un grand nombre de dessins animés. Là, on a Princesse Sarah sous les yeux. Mais il y a eu Lady Oscar qui se base sur la Révolution. On a vu, le Tour du Monde en 80 jours, Rémi sans famille. Enfin, voilà, on a eu une vague de dessins animés comme ça, qui était pour les parents quelque chose de très rassurant. Par contre, dès qu'on passait, après Rémi sans famille, on pouvait passer sur du Sailor Moon ou sur du Goldorak. Et par contre, là, les parents devenaient beaucoup plus réticents. Ils n'étaient pas du tout éduqués à ce genre de choses. Et c'était assez flagrant, en fait, d'entendre certaines grandes personnes qui disaient « Arrête de regarder des dessins animés japonais, mais regarde plutôt Rémi sans famille, c'est bien pour ta culture. » Ils ne se rendaient pas compte que c'était japonais aussi, parce que c'était notre culture, finalement, mais vu sous le regard d'une autre culture.
Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est que tout à l'heure il y avait la table ronde avec les auteurs de City Hall là où qui revisitent en façon manga Jules Verne et Arthur Conan Doyle, et en fait ce qui est assez amusant, c'est de se dire que les Japonais ont découvert les œuvres littéraires notamment occidentales que nous on voyait plus trop, il faut bien l'admettre. Je pense que des enfants d'aujourd'hui qui vont spontanément aller lire du Jules Verne, il y en a peut-être plus tant que ça. Les Japonais, eux, découvraient ça, et pour eux, c'était extrêmement exotique, évidemment. Donc, l'adaptaient. Et en fait, par effet de boule de neige, ça nous a, nous, fait, enfin, les Occidentaux, on a redécouvert ce nouveau regard, finalement, sur des œuvres qui étaient devenues trop familières. Et ça nous les a fait redécouvrir, et ça les a rendues à nouveau intéressantes, en fait. Donc là, par exemple, on voit Nadia des studios Gainax, qui est inspirée de 20 milieux sous les mers. Et faut bien le dire, le 20 milieux sous les mers, on le sent dans les premiers épisodes, et à la fin, ça se termine avec des vaisseaux spatiaux qui se battent au-dessus de Paris. Mais c'est une série qui est absolument fabuleuse. Et moi, je sais que quand je l'ai découvert, ça m'a donné envie de relire 20 milieux sous les mers, L'île mystérieuse, Robur le conquérant, qui sont les trois grosses inspirations de cette série. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une, à la fois une très grande fidélité, il y a énormément d'éléments pris de Jules Verne qu'on retrouve dans cette série, mais en même temps, il y a une, c'est complètement décomplexé dans la manière dont ils l'utilisent. C'est-à-dire qu'ils vont se permettre des choses que si c'était une adaptation de Jules Verne par des Français, sûrement il n'y aurait pas cette décomplexion et cette vision originale en fait du matériau. Et les Japonais ont apporté ça et nous ont, nous, de notre côté, décomplexé notre regard en fait sur ces œuvres. Et si les Japonais n'avaient pas fait ce genre d'adaptation, on n'aurait pas maintenant des créateurs français qui racontent les aventures de Jules Verne façon manga. Ça aurait été impensable d'utiliser une icône finalement culturelle de cette manière-là si les Japonais ne l'avaient pas fait en fait.
Et ce qu'on peut dire aussi justement à cette époque que les Japonais connaissaient mieux la culture occidentale que finalement les Occidentaux ne connaissent la culture japonaise, enfin ne connaissaient la culture japonaise à travers la littérature et l'autre.
Alors c'est assez étonnant en fait parce que il y a plusieurs étapes. Dans les années 60-70, le Japon a eu un véritable engouement pour la France. Donc Adamo, Paul Naref, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo étaient de véritables stars. Pour le coup, c'était vrai, contrairement à ce qu'on peut dire de Alizé, par exemple, qui est super connu, mais c'est pas vrai. Enfin bref. À cette époque, dans les années 60-70, il y a eu un véritable engouement pour la France et sa culture. Et c'est à partir de là que sont nées en fait toutes ces adaptations d'œuvres en général françaises et plus généralement européenne. Par contre, dans les années 90, ça s'est légèrement abaissé. Quand on va au Japon, c'est la génération de ma mère qui, quand les gens me voient et me demandent de quelle nationalité je suis, je leur dis je suis français, ils me parlent de Belmondo et d'Adamo, voyez. Par contre, quand on voit des jeunes de 25-20 ans, ils connaissent à la limite Zidane, mais ça va guère plus loin. Voyez, donc il y a vraiment plus du tout ce même intérêt. Par contre, l'intérêt il a traversé les frontières et c'est plutôt la jeunesse française qui s'intéresse à ce que font les Japonais. Donc il y a eu un transfert véritablement d'intérêt. Les Japonais s'intéressent plus vraiment à ce qu'on fait nous. Leurs centres d'intérêt sont plutôt maintenant vers la Corée, vers la Chine et aussi vers les États-Unis, mais ils sont un peu déportés de la France. Ils ont visité la France pendant 20 ans. Voilà, maintenant bon ils sont passés à autre chose. Et c'est plutôt à nous maintenant de nous intéresser à eux.
Mais c'est vrai que d'un point de vue littéraire, combien d'entre nous ont lu des romans japonais? Ben, pas beaucoup. Je pense. Moi, j'ai lu La Tombe des Lucioles parce qu'il était offert avec le DVD. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi.
Mais l'offre, elle est gigantesque maintenant. Hein. On n'est pas obligé de faire effectivement la littérature depuis que les éditions Piquet, par exemple, sont arrivées. Avant, on n'avait que du Mishima. On n'avait que les énormes classiques du Kawabata, mais ça se comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, on a accès, grâce à différents éditeurs de littérature, à des œuvres qui ne sont pas forcément majeures, mais qui sont populaires au Japon et qu'on peut découvrir en français, puisqu'elles sont traduites pratiquement en temps réel. Et il y a des centaines et des centaines de titres qu'on peut découvrir. Alors, ce n'est pas forcément ce qui se vend le mieux, quoique Murakami Haruki ou Liu soient maintenant des grands best-sellers en France. Mais on a des milliers de titres de mangas qui sont disponibles tous les ans en France, et des fois on se demande pourquoi même ce titre-là est traduit, parce que ça n'a pas forcément grand intérêt pour le lectorat français, et pourtant on va traduire de tout, un peu de tout et n'importe quoi en fait. Donc il y a quand même un choix qui nous est offert aujourd'hui pour découvrir la culture, la littérature et la pop culture japonaise qui est impressionnante, et peu de pays peuvent se vanter de la même chose, un peu en dehors des États-Unis, je connais que le Japon.
Là, on a beaucoup parlé de ce qu'était littérature, manga, mais est-ce que dans le domaine du jeu vidéo, c'est la même chose? Et est-ce que, à l'heure actuelle, les Japonais voient arriver des jeux occidentaux en les accueillant de manière favorable, ou est-ce au contraire toujours les Occidentaux qui sont très perméables aux jeux vidéo japonais?
Là, il y a deux choses aussi. En fait, avant l'arrivée de la Famicom, donc en 83, la NES, en France, le Japon a connu un véritable engouement en fait pour l'Apple II, pour tous les premiers micros, les premiers PC, et les gamers de cette époque en fait ne jouaient qu'à des jeux occidentaux parce que la production locale était relativement peu intéressante, et ils ont tous joué à des Wizardry.
Par exemple, le RPG japonais, les premiers, donc le premier Dragon Quest, le premier Final Fantasy. C'est les deux grosses inspirations sur ces jeux, c'était Wizardry d'un côté et Ultima 3 notamment. Quand alors j'oublie toujours son nom, tu vas devoir m'aider, le créateur de Dragon Quest.
Ori.
Voilà. Quand il a créé le premier Dragon Quest, en fait, il s'est dit, j'adore Ultima 3, je vais reprendre ce principe avec ce groupe de héros qui se promènent sur une carte et qui font des quêtes et qui tuent des monstres. Par contre, sur les combats, je préfère Wizardry, donc je vais faire plus des combats à la Wizardry. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ne sont pas contentés de copier, en fait. Il y a eu toute une démarche intellectuelle qui a été faite de dire... Ces jeux sont pas assez accessibles, ils sont pas très clairs, il faut lire un gros manuel pour comprendre ce qu'il faut faire. Donc il y a tout un travail d'interface, il y a tout un travail de simplification, non pas de la profondeur du jeu, mais de la manière dont elle était présentée aux joueurs, en fait. Et ce travail, qui était un travail vraiment de game design et d'ergonomie, finalement, c'est ce qui manquait, en fait, dans le jeu vidéo occidental pendant très longtemps.
Et c'est l'image qui est restée, en fait, aujourd'hui, malheureusement. C'est plus le cas, hein, mais les Japonais ont du mal à refranchir le cap. Mais à partir de la Famicom, donc avec cette simplification du game design et surtout ce côté un peu user-friendly, prise en main immédiate, les Japonais ont redécouvert, en fait, le jeu vidéo, mais avec leur propre vision du game design. Et ils se sont habitués à leur propre mécanique. Et ils ont eu énormément de mal à continuer à jouer avec les jeux occidentaux qui étaient toujours aussi obscurs. Ils étaient vraiment très profonds, hein, certainement plus profonds que les jeux japonais. Le souci, c'est qu'il fallait du temps pour s'imprégner de cet univers. C'était pas très jouable, tu l'as dit. Et aujourd'hui, en fait, le jeu vidéo occidental pâtit encore de cette image de jeu où on sait pas forcément ce qu'il faut faire. C'est les contrôles, c'est pas forcément très simple. Et les Japonais ont du mal, en fait, à revenir à ça. Et ils ont un terme pour appeler les jeux occidentaux, c'est le yoge. Le yoge, c'est le jeu occidental, c'est un terme malheureusement un peu péjoratif. Et le simple fait de savoir que c'est un yoge, ils ont peu tendance à vouloir s'y essayer. Quand ils essayent, ils trouvent que c'est bon. Aujourd'hui, les jeux yoge sont d'excellentes factures, mais ils ont du mal à se sortir de leur propre licence et de leurs propres univers.
Ce qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, les créateurs de jeux occidentaux, enfin en tout cas en France, comme moi j'ai pu le voir à Ubisoft, il y a une vraie réflexion de se dire... comment les Japonais abordent le game design, comment nous on peut aborder le game design de la même manière, parce que il y a des leçons à tirer, en fait, des game designers japonais. Donc il y a cette influence. Finalement, aujourd'hui, les jeux occidentaux, si les jeux occidentaux ont repris du galon par rapport à une époque où effectivement le jeu vidéo japonais était beaucoup plus présent, beaucoup plus fort, aujourd'hui la tendance est un petit peu inversée, c'est aussi parce que les créateurs de jeux occidentaux se sont inspirés et continue de s'inspirer de la manière dont les Japonais font des jeux vidéo, en fait.
Mais on peut le voir, hein, tout n'est pas ni tout blanc ni tout noir. Les Japonais ont eu leur période où, effectivement, ils vénéraient le jeu occidental. Ensuite, ils ont réussi à eux inverser la tendance. Et puis maintenant, enfin voilà, c'est toujours un petit peu des chemins sinueux. Et on a souvent tendance à croire que dans l'histoire du jeu vidéo, les Japonais se sont contentés de copier. Donc on l'a vu, c'est pas vrai, puisque les Occidentaux ont repris les mécaniques japonaises pour les mettre dans leurs jeux qui marchent aujourd'hui. Mais il faut aussi savoir qu'au Japon, les premières contributions dans le jeu vidéo datent, en fait, de l'arrivée du jeu vidéo en Occident. C'est-à-dire que la première console, l'Odyssée, arrivée au tout début des années 70, en 72, Nintendo a contribué, en fait, à l'élaboration de cette console. Et ça, on le sait pas. Nintendo a élaboré, en fait, le pistolet laser qui servait en tant qu'accessoire pour cette console, l'Odyssée, qui servait à tirer sur des écrans sur des trucs lumineux. Et c'était déjà Nintendo qui faisait ça, voilà.
Donc l'Odyssée, c'est 1969. 72, c'est pas Pong.
Pong est arrivé en 71 peut-être pour l'Odyssée, Pong 72, mais
Non, en fait, c'est le prototype, c'était la Brown Box.
La Brown Box, c'est 66, ouais. Ouais, ouais. Enfin bref.
Et par rapport à la pénétration du jeu occidental au Japon, j'ai l'impression, en fait, qu'on voit de plus en plus de smartphones américains au Japon. Est-ce que le jeu vidéo sur tablette et sur smartphone n'est pas, en fait, la porte que peuvent avoir les Occidentaux pour repénétrer ce marché, ou est-ce que les Japonais cherchent, même sur ces périphériques nouveaux, des jeux qui sont selon des game design qui leur sont familiers?
Ah, c'est compliqué. C'est vrai que le Japon et la Corée ont été très longtemps en avance. Nokia avait beau dominer le marché mondial en termes de vente, le Japon et la Corée étaient très en avance sur tout ce qui était téléphonie et technologie de la téléphonie. Ils ont eu des écrans en couleur bien avant nous, la visioconférence sur téléphone portable bien avant nous. Quoi qu'il en soit, Apple a quand même réussi à, à s'immiscer dans ce marché avec beaucoup de mal au début. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'iPhone marche bien. Côté de Samsung, finalement, on se retrouve avec les mêmes équilibres qu'ici. Et ils ont quand même un marché du jeu vidéo sur téléphonie mobile qui est très particulier. Ils ont des systèmes de paiement en fait en ligne, comme GRI, par exemple, qui arrive aussi chez nous depuis quelques mois, et qui sont extrêmement puissants avec un système de jeu que nous, on n'a malheureusement encore pas du tout adapté. Donc tout ce qui est échange de cartes, collectionnite de cartes, achat de cartes pour ensuite tout ça, ils sont vraiment fanats de ce genre de choses. Et nous, ça a encore beaucoup de mal à percer ce genre de gameplay. Donc c'est pas encore pour demain qu'on va s'approprier les nouveaux jeux japonais et vice versa.
C'est quand même marrant sur la collectionnite. On en parlait hier sur cet aspect. Tous les enfants cherchent à collectionner. Alors ça a été les cartes Panini de joueurs de foot à notre époque. Après il y a eu les POG, les pins, enfin tout ça. Ça s'est retraduit dans des jeux vidéo type Pokémon. Et maintenant, c'est quoi la prochaine étape par rapport à ça ?
Ben, c'est toujours Pokémon, hein. Ça fait 15 ans maintenant que c'est un carton. Et pour le coup, c'est vraiment une œuvre 100% japonaise. Puisque les Japonais ne pensaient absolument pas qu'un jeu comme Pokémon pourrait marcher en dehors du Japon. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, nous on collectionnait les cartes, les trucs Panini qu'on collait dans les albums. Eux, les jeunes enfants japonais, l'été ils allaient dans les montagnes, dans les bois, sur les collines, et ils ramassaient des insectes. Ils continuent, hein, les enfants, ils adorent les insectes. Ils les collectionnaient, ils faisaient faire des combats d'insectes. Et l'idée en fait des Pokémon vient en fait de cet instinct-là, de collectionner des insectes et de les faire se battre entre eux, et puis de se les échanger grâce au câble Link des Game Boy. Donc c'est un jeu qui était vraiment très japonais à la base et qui a réussi à s'étendre aux quatre coins du monde. Et ça continue en fait. On voit que c'est un concept qui est universel, la collectionnite, les combats, et enfin voilà, le concept de Pokémon est universel et il n'y a pas de raison que ça s'arrête tout de suite. Hein.
Et d'ailleurs, on remarque que l'un des gros cartons d'Activision, c'est sur la dernière année, c'est Skylanders. Qui est le principe du j'achète ma figurine et ensuite je peux mettre ma figurine sur un petit socle et hop je peux jouer le personnage dans le jeu et voilà, et ça, c'est la première fois je pense qu'un éditeur occidental parvient à réussir un jeu de ce type en fait, où la collectionnite est au cœur du jeu.
Ouais, mais je pense que là pour le coup c'est vraiment l'Occident qui s'y est inspiré de tous ces phénomènes de collectionnite à la japonaise. Ouais.
Bah, même dans l'esthétique des créatures ça se voit. Et pourtant, on peut retracer finalement ce principe à des appareils comme le Barcode Battler ou ce genre de choses qui n'ont jamais trop marché chez nous, qui, semble-t-il, ont un peu mieux marché au Japon notamment.
Du coup, maintenant, au fur et à mesure, en vous écoutant, on a l'impression que tout est lié. Il n'y a plus vraiment de création purement asiatique, plus de création purement occidentale ou américaine, et que tout s'entremêle.
Ben, très clairement, hein, rien ne naît de rien de toute façon. On le voit dans le manga, hein. Le manga, on en a parlé tout à l'heure, il y avait les origines du manga, elles remontent peut-être au 8e siècle, hein, au Japon. Ils n'ont pas eu besoin de nous pour créer leur propre style et leur propre procédé narratif. Mais simplement, il s'est passé quelque chose au 20e siècle pour que tout le monde adopte finalement cette organisation en cases avec des bulles. Donc il y a de toute façon des influences qui naissent de part et d'autre. Les impressionnistes, eux, se sont basés sur les styles japonais, donc tout est imbriqué. Et ça reste assez difficile aujourd'hui de se dire, tiens, ça c'est 100% japonais. Il y a peut-être des exemples par-ci, par-là. Par exemple, les Tamagotchi, ça c'est un truc qui, à mon avis, est 100% japonais et qui est né pratiquement de rien. Voilà. Donc il y a de temps en temps une petite invention comme ça qui apparaît un petit peu de nulle part, bien que si on cherche bien il y aura certainement les Game & Watch viennent peut-être d'avant des jeux électroniques sur LED, enfin bref on peut toujours remonter à quelque part, mais c'est très très difficile aujourd'hui de définir une spécificité 100% quelque chose.
Le petit Game & Watch pour ceux qui ne l'ont pas connu.
Eh oui.
Qui n'a pas connu?
Il vaudrait mieux pas tenter ce sondage.
J'ai vu une ou deux mains se lever timidement dans la salle.
Et donc, tout est entremêlé, mais est-ce que les équipes japonaises et les équipes occidentales arrivent à collaborer ou on reste quand même sur des choses assez fermées à ce niveau-là ?
Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu spécifique au Japon, parce que le Japon, ça reste quand même un pays insulaire. Pas forcément, ils sont très ouverts à bien des égards et assez fermés à d'autres. Voilà, comme beaucoup de pays insulaires, malheureusement, mais on a chacun nos qualités, nos défauts. Mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est que les Japonais ont tendance à scinder le monde en deux parties, entre le Japon et ce qui est japonais et ce qui est pas japonais. Et ils ont une vision un petit peu ethnocentrique en fait de la création. Et dans le jeu vidéo, quand on compare avec des studios comme Ubisoft, quand on compare avec des studios comme Electronic Arts, quand on regarde un petit peu à la fin les staff credits, il y a de toutes les nationalités. Vraiment, il y a des noms qui peuvent venir de n'importe quel pays dans le monde, et même des Japonais. Par contre, quand on regarde les jeux japonais, il faut vraiment lutter pour trouver des noms qui ne soient pas japonais. Alors évidemment, on trouve des noms quand il s'agit des traducteurs. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ça devient difficile. Ils sont encore assez fermés. Ils sont toujours persuadés qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils faisaient dans les années 90, ce qui était vrai, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et ils sont toujours, malheureusement, il y a la barrière de la langue, ils sont toujours un petit peu repliés sur eux-mêmes en termes de création de jeux vidéo. En dessin animé, je pense que c'est un peu la même chose. En manga, bon, c'est de l'œuvre un peu plus personnelle, donc c'est normal. Mais en dessin animé, tout ce qui est travail d'équipe, ils restent toujours un petit peu fermés sur eux-mêmes. Un peu dommage.
Mais ça évolue quand même petit à petit, puisqu'on a vu notamment Konami. Dans l'équipe qui a fait Metal Gear Solid 4, il y avait un certain nombre d'occidentaux qui travaillaient. Et là, sur les nouveaux Castlevania, Lords of Shadow, c'est un studio espagnol qui a développé le jeu pour Konami, encadré par les Japonais, mais ils ont fait confiance à un studio européen pour développer ce jeu.
Ça s'ouvre lentement, mais sûrement.
D'ailleurs, petite anecdote au passage que vous connaissez sans doute, mais les héros de la saga Castlevania s'appellent les Belmont, en Occident du moins, puisqu'en japonais, ce sont les Belmondo, en référence à Jean-Claude.
Et si on se projette dans l'avenir Jean-Paul. De la création et l'avenir dans un univers qui est de plus en plus massif, on est dans une création globale, on voit que des grosses, grosses entreprises en rachètent d'autres, Disney avec Lucas. Comment est-ce qu'on arrive encore à créer des choses nouvelles, innovantes, dans un contexte où on a l'impression que c'est le marché donne la prime aux plus gros moyens? Est-ce qu'on va aboutir vraiment, comme au cinéma, par exemple, où on a un cinéma d'art et d'essai avec des moyens plus réservés, mais avec des formes différentes, et un cinéma grand public? Est-ce que finalement l'avenir du jeu vidéo et l'avenir de peut-être du manga, de l'animation, ça va aussi être ça?
C'est rigolo puisqu'on retombe sur des thématiques qu'on a un peu abordées hier à la table ronde de l'autre côté sur le jeu vidéo. En fait, je pense que le jeu vidéo a besoin d'avoir cet espace de respiration qui serait l'équivalent des films d'art et d'essai pour le cinéma, qui permettent à des créateurs de faire des choses qui sont totalement inattendues, totalement barrées, totalement libérées des contraintes de vente, de budget, de marketing. Maintenant, cet espace, on l'a avec le jeu indé, qui a fait son grand comeback au cours des 5 dernières années, vraiment avec une vraie scène indé qui avait eu tendance un peu à disparaître et qui, grâce au téléchargement, aux nouvelles plateformes de téléchargement, s'est réaffirmé en fait. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Après, plus concrètement sur la thématique d'aujourd'hui, à savoir les influences de l'Occident sur le Japon, je sais pas.
D'accord. Pour finir, j'aurais aimé vous poser une question. Quel est votre coup de... Là, on a traversé différentes dimensions. Quel est votre coup de cœur en jeu, d'un point de vue ludique, littérature et bande dessinée, manga? Pour vous, quelle est l'œuvre que vous conseilleriez de découvrir là tout de suite, enfin après la table ronde et après le cosplay? Je pense que le public ne courra pas directement, mais qu'est-ce qui vous a vraiment marqué ces derniers temps dans le domaine?
Ces derniers temps, moi je vais parler plutôt d'un truc général, mais pour moi, un des trucs vraiment majeurs de l'influence japonaise, ça reste les Game & Watch. Je trouve que c'est un jouet génial. L'invention du Game & Watch a considérablement apporté à l'industrie naissante du jeu vidéo au tout début des années 80. On peut voir Donkey Kong, qui est un exemple très pragmatique de ce qu'on connaît encore aujourd'hui, la croix directionnelle qui a été inventée en fait par Gunpei Yokoi exactement pour ce modèle là qui était l'adaptation de Donkey Kong avec double écran. Ça rappelle forcément la DS la Nintendo DS ainsi que la Nintendo 3DS. On avait déjà des bases en 1980, inventées par un homme qui est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Gunpei Yokoi. Et c'est vraiment une invention marquante, voilà, qui est à peu près aussi symbolique que le Rubik's Cube dans les années 80. Et tous les gens de cette génération, et même plus tard, ont été marqués vraiment par ça. En création plutôt manga, etc.
Moi, excuse-moi, où est-ce qu'on peut maintenant, si on veut essayer ce genre de jeu?
Il faut s'accrocher, hein, faut avoir de l'argent. Aller sur eBay et puis avoir un peu plus d'argent que les autres. Mais sinon, avoir beaucoup de chance dans les vides-greniers, et puis, parce qu'on n'en fait plus malheureusement des produits comme ça. Mais voilà, dans les vides-greniers, avec un peu de chance, on peut encore en trouver, ça devient de plus en plus rare. Ou sinon, sur les enchères, il y en a plein, mais ça commence à coûter très cher. Et puis voilà, donc, mais sinon, l'autre peut-être grande influence qui a eu, c'est Dragon Ball. Indéniablement, l'impact de Dragon Ball sur notre culture, notre propre culture, et sur la jeunesse a été incommensurable, en fait. Et voilà, ça fait partie, voilà, de ces deux productions japonaises qui ont considérablement marqué notre génération à partir de la fin des années 70 et jusqu'à encore aujourd'hui, puisque on verra tout à l'heure, à mon avis, il y aura un gros engouement pour le cosplay. Mais tout ça, ça déboule. C'est un effet boule de neige qui a abouti sur ce qu'on voit aujourd'hui, quoi.
Pour ma part, je peux parler beaucoup de Leiji Matsumoto tout à l'heure, on va rester dans cette vague. Il y a une œuvre de Matsumoto qui est pas sa plus connue, qui gagnerait à être beaucoup plus connue, qui est Queen Millennia. Alors malheureusement, je t'ai pas donné d'image de cette œuvre. Queen Millennia, c'est d'abord un manga, une série télé, un film. La série télé est passée en France sous le nom La Reine du Fond des Temps, avec une traduction française absolument immonde, mais la série est vraiment magnifique. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà, avec cette œuvre, Matsumoto a fait une remise au goût du jour d'un conte japonais, qui est le conte du coupeur de bambou, qui en fait est considéré comme la plus vieille histoire de science-fiction du monde. Comme quoi, voilà, on parlait de la manière dont les Japonais auraient copié. En matière de science-fiction, ils ont été les premiers. Et donc, Matsumoto a remis ça au goût du jour. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que le film, qui pareil est sorti en France dans les années 80 directement en cassette vidéo, a une superbe bande originale qui était composée par Kitaro, qui est un des grands pionniers de la musique électronique. Donc voilà, on parlait de Daft Punk. Au Japon, il y a eu aussi Kitaro, qui est un grand monsieur. Et donc voilà, je pense que c'est assez transverse sur la thématique d'aujourd'hui. Et voilà, c'est vraiment à redécouvrir. C'est pareil, c'est très très compliqué. La cassette vidéo, autant dire qu'on ne la trouve plus. Mais bon, voilà, je me doute que vous voyez à quoi je pense. Il y a toujours des moyens de trouver ces œuvres aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup. Donc Julien, on pourra te retrouver sur la chaîne No Life, également dans IG, et également d'une certaine manière en jouant à Heroes Might and Magic. Et Florent, aussi sur No Life, dans ses livres que vous pouvez retrouver à la librairie. Vous pouvez retrouver l'histoire de Nintendo. C'est vraiment passionnant de reparcourir cet univers. Et puis No Life Story, qui parcourt l'histoire jeune mais dense de la chaîne de télévision No Life. Voilà, merci à vous d'être venu jusqu'à Nantes.